Les Gemoik, Gemoik. Ils ne partagent pas leur quotidien, mais tous leurs revenus.
Ça marcherait pas en France. Mais le français est pas assez perso, hein. Dans les pays nordiques, super, mais pas en France.
Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours avec le même ravissement que je vous accueille dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, l'émission qui chaque après-midi traque les dernières tendances sociétales, même quand ces dernières tendances sociétales ne concernent encore qu'une poignée d'Allemands altermondialistes dans un squat de Berlin-Est. Nous sommes au Wirfensick Landsberger Strasse, un ancien abattoir transformé en loft éco-responsable végétalisé dont toutes les poignées de portes sont comestibles. C'est là que vit, essentiellement en Sarwell, une communauté Gemoik, concept qui signifie que non seulement on vit en colocation mais qu'on mutualise tout ce qu'on gagne dans un pot commun dans lequel chaque membre de la communauté peut puiser, quel que soit le niveau de sa propre contribution. Oui, Cyril Lacarrière, notre rédac-chef, vient de faire un malaise vagal. C'est normal, le Gemoik, surtout quand on a voté Fillon en 2017, ça surprend. Mais ça intrigue aussi, d'autant qu'il se trouve qu'un ancien membre de la famille Zoom Zoom Zen a récemment emménagé au Wirfensick, Landsberger Strasse. Il est 14h du matin, un dimanche glacial de février, quand Étienne Bertin nous ouvre les portes de sa communauté Gemoik. À l'intérieur, le thermomètre indique 9 degrés. Pourtant, Étienne est en slip. Oh. « Faites pas attention, je reviens du Bergheim », nous dit-il avant de nous entraîner dans le salon. Pour nous présenter, Hilda, Till, Peter et Ludwig. Oh. Son Shetland de compagnie, nous explique-t-il en lui caressant la croupe. Parfois, les voisins se plaignent de l'odeur, mais comme au sein de la communauté, personne n'a pris de douche depuis le 6 novembre, ils ne peuvent pas être sûrs que le problème, c'est vraiment le poney. Bref, à quoi ressemble une vraie communauté Gemoik ? Est-ce que c'est si caricatural que ce que je décris ? Ou bien suis-je juste un irrécupérable capitaliste incapable de voir que le système est au bord de l'implosion et qu'il faut bien chercher des solutions, surtout quand on est jeune ? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
J'étais avec Étienne.
Vous étiez avec Étienne. Vous avez envie de rester avec Étienne.
Non mais là,
il faut dire aux auditeurs qui nous prennent en cours de saison. Étienne Bertin est un réalisateur historique de cette émission qui a fait énormément de remplacements avec nous et qui a une autre passion dans la vie.
Les poneys.
Oh non, ça Manon, ça c'est une petite légende entre nous. Il a surtout une passion pour la musique techno berlinoise.
Il
fait des allers-retours. Voilà, donc on l'imaginait dans ce cadre-là.
On le surnomme l'autoroute du tempo.
L'autoroute du tempo, Étienne Bertin.
Il se surnomme.
On l'embrasse.
Et on embrasse également notre invité. Bonjour Alexandre Jost.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous cet après-midi Alexandre. Vous êtes ingénieur de formation. Vous avez créé la Fabrique Spinoza, un observatoire qui étudie les liens sociaux et le bonheur. On en a besoin en ce moment. Et on va tout comprendre avec vous de ce mouvement Gemoik auquel je n'ai pas compris grand-chose visiblement d'après ce que m'a dit Cyril en amont de cette émission puisqu'ils ne vivent pas forcément en colocation. C'est juste l'idée de partager l'argent dans un pot commun entre personnes qui se connaissent et qui ne sont pas forcément amis très proches.
Exact.
Ce qu'on pourrait faire d'ailleurs.
Bon, alors, on y reviendra. La réponse est non. Juste le temps de vous présenter justement Alexandre, mes joyeux acolytes qui ont dû être émus d'avoir des nouvelles d'Étienne Bertin, notre réalisateur, joker et clubbeur. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
Bonjour.
Ah, bonjour.
Bonjour à tous.
Manon, bonjour tout le monde.
Manon, je sais pertinemment ce que vous vous dites, puisque vous vous dites ça à chaque fois que vous ouvrez votre appli BNP Paribas Mes Comptes et que vous voyez le symbole pluie tropicale s'afficher avec du rouge et des points d'exclamation partout. Si dans Zoom Zoom on mettait tous nos salaires en commun, je pourrais m'acheter plus souvent du Gucci. Le raisonnement est bon, Manon, mais c'est du côté de mon consentement que ça coince. Désolé.
Ouais, c'est ça.
Retour découvert. Manon, tout à l'heure, vous nous direz qui suivre si on veut aller plus loin sur notre sujet.
Un ingénieur qui a créé une plateforme qui met en lien les sans-abri et les riverains pour plus d'entraide et de connexion sociale.
Face à vous, Alexandre, lui, il serait clairement le maillon faible d'un Gemoik. Puisque pendant que tous les autres alimenteraient consciencieusement le compte commun, lui n'aurait de cesse de cacher ses revenus afin de bénéficier du pot commun tout en gardant ses 6 caves au chaud. Peut-être n'est-il pas assez honnête, peut-être n'est-il pas assez de gauche, peut-être les deux. Quentin, votre aversion pour ce que vous appelez hors antenne ces zadistes siphonnés ne vous a pas empêché d'aller faire réagir les passants à notre notion du jour.
Et je me suis rendu dans un quartier qui nous tient à cœur, les voisins, comme on les appelle, le 16e arrondissement. Est-ce qu'ils seraient prêts à faire un Gemoik ? Avec Noël, pourquoi pas ? Avec moi, le salaire officiel est trop bas, me disent-ils, et le cash, ça compte pas, m'a-t-on dit. Donc pas de Gemoik pour moi.
Vers 16h30, d'argent, il sera évidemment question dans le Zoom Zoom Test, puisque nous partirons à la découverte des règles et des innovations bancaires les plus saugrenues. Je rappelle à ce titre à Quentin que signer une autorisation de prélèvement pour le fisc sur son compte courant n'est pas saugrenu, c'est juste la loi. Juste avant 17h, nous serons rejoints par Karim Duval. Mais d'abord, Alexandre, mettre son argent en commun avec des personnes qui ne sont pas de votre famille, est-ce que c'est un système qui pourrait marcher en France ou bien culturellement, là déjà, ça coince.
Bah, à mon avis, en France, c'est pas très commode parce qu'on est quand même plutôt une société de statut, de caste. Il y a un sociologue, il s'appelle Gert Hofstede, hein, comme ça se prononce, et lui, il a dit, eh bien, on peut imaginer de bâtir un indice de la distance hiérarchique. Donc, on essaie de voir dans quelle mesure on est une société qui est verticale, une société pyramidale, et surtout si on vit bien ou pas cette verticalité. Mmh. Et la France est le pays le plus vertical de l'OCDE. Alors, il y a plus vertical à l'extérieur. Il y a par exemple la Russie, la Chine, tous ces pays inspirants en termes de démocratie. Et donc, finalement, cette verticalité, il nous dit que on se regarde les uns les autres à travers nos statuts. Donc, arriver à faire commun, bah, c'est pas facile quand déjà la première question c'est comment tu t'habilles, quel est ton niveau dans la société. Faut se rappeler quand même qu'il y a encore 10 ans, il y avait 1000 grades dans la fonction publique. Donc on est en permanence.
Ça en dit long.
Oui, ça en dit long. Donc on est en permanence, ancien régime, on est en train de se demander plus important, moins important que moi. Et dans ces conditions-là, et ben faire pot commun, pas facile quand même.
Ah Mathieu.
Mais j'ai rien dit, moi, me regardez pas comme ça. Lui, vous avez à peu près autant de chances de le voir rejoindre un jour une communauté Guémoc que de le voir acheter des graines de lin en vrac chez Biocop. Il est notre rédacteur en chef, il est plus que ça. Il est le bon sens fait homme.
Ouais.
Cyril Lacarrière, vous imaginez devoir mettre tout ce que vous gagnez dans un pot commun avec des colocataires? Déjà que vous avez refusé le compte commun à votre femme.
Ça c'est faux, mais en revanche c'est non pour la première partie.
C'est non, vous aussi.
On
est sur la même ligne pour une fois. Alors racontez-nous ce Guémoc que vous connaissez évidemment mieux que moi, d'où ça sort?
Gemeinsame Ökonomie. Alors c'est plus ou moins de l'allemand, et en tout cas ça signifie économie commune. Pour vous figurer de quoi on parle, c'est comme si là, effectivement, autour de cette table, on vivait en communauté, Manon, Quentin, Mathieu et moi, et que tous les mois, on mettait nos salaires dans un pot commun et qu'on utilisait cet argent pour nos projets respectifs, une sorte de cagnotte litchi à l'échelle du quotidien. Bref, un truc de communiste.
Oh.
Il se trouve que oui, mais non. Déjà parce que les communistes, ça n'existe plus. Ensuite, parce que ce Guémoc, ce n'est pas tout à fait les kolkhozes. Les kolkhozes, pour mémoire, c'était le système agricole mis en place en Union soviétique après la révolution de 1910. Quand les terres et les moyens de production étaient mis en commun.
Si on essaie d'être sérieux deux minutes, Cyril, qu'est-ce qu'il y a de semblable entre ces Guémoc et le communisme?
Eh bien, trois choses quand même. La mise en commun des ressources rappelle évidemment le modèle collectiviste marxiste. Ensuite, il y a cette idée d'une égalité économique entre membres de la même communauté. Peu importe combien chacun gagne, l'objectif c'est une répartition équitable. Et puis, il y a fondamentalement un refus du capitalisme.
Mais pour autant, les Guémoc ne sont pas une nouvelle version du communisme, attention.
Effectivement. Déjà parce que même si ces communautés se sont développées en réaction aux inégalités économiques et aux crises financières, elle ne cherche pas à faire la révolution. C'est un modèle alternatif qui peut vivre en parallèle en fait du modèle dominant. Et puis, même si les revenus partent dans une caisse commune, chacun reste autonome. Ce n'est pas un kibbutz non plus, pas de travail en commun, ni de mode de vie imposé. Et enfin, eh bien, l'État n'a rien à voir avec tout ça. Il n'y a pas de contrôle pour dicter la vie des Guémoc, ils sont libres. Comme Max. Alors, est-ce que les Allemands n'auraient pas trouvé un mode de vie hybride idéal? Quel est l'intérêt d'être un Guémoc? Est-ce que c'est l'avenir, au finalement, le collectif, comme ça? Va-t-on devoir tous porter des Birkenstock? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril, même si je vous sens quand
c'est
même
cliché.
Très inquiet. Très très inquiet.
Ah oui
ouais, ça vous terrifie ce sujet aujourd'hui.
Ça me fait froid dans le dos.
Alexandre Josse, est-ce que vous voyez les accointances avec le communisme, ou comme de toute façon c'est pas quelque chose d'étatique, on a compris que ces Guémocs c'est des petites communautés qui peuvent vivre d'ailleurs en marge du système, on est loin du communisme finalement.
Bah, moi j'ai le sentiment, comme ça a été dit par Cyril, que c'est plutôt une expérimentation un peu à la mano de solidarité alternative. Moi ce que je me disais en réfléchissant à cette émission, c'est que en fait les gens sont effrayés. Alors il y a comme un joli mot qui a été inventé par les sociologues sur les crises, ils parlent de permacrise. C'est cool parce qu'avant on se demandait est-ce que maintenant c'est la crise économique? Ah non, c'est la crise géopolitique? Non, c'est la crise écologique. Donc on est en permacrise.
On est en permacrise, c'est crise permanente.
Bah, tout le temps. Donc on n'a plus besoin de se poser des questions. Les jeunes, ils nous disent, bon, à 75%, on trouve que l'avenir, c'est effrayant. Quand on leur demande 2050, ça évoque pas pour vous, ils disent, à 31%, ils disent la fin du monde, carrément. Oui. Donc, on sent un peu dans quel climat on vit. Et du coup, eh ben, face à cette perte de contrôle, qu'est-ce que je fais dans ma vie pour arriver à retrouver un petit peu de prise sur les choses? Eh ben, les gens se disent, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de retrouver, eh ben, de la solidarité à une échelle plus petite, plus micro. C'est pas l'État et c'est pas mon couple. C'est un peu entre les deux.
Mais c'est assez rafraîchissant parce qu'on s'en moque, mais vraiment juste pour rigoler, parce que l'idée, elle est belle et surtout, elle est rassurante sur la nature humaine. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire aussi, face à la permacrise, on va tous se replier sur nous-mêmes et se dire, moi, j'économise pour moi, dans mon coin, pour si jamais il m'arrive un truc à moi, je pourrais faire face moi. Alors que là, c'est l'inverse. On se dit, on va faire confiance aux autres, on va tous mutualiser, comme ça, on sera plus fort en cas de crise.
Alors, moi, j'aime beaucoup, hein, quand vous dites ça. En plus, vous avez le sourcil qui frise et
oh, ça,
un sourire un petit peu de naïf au sens humaniste.
Mais c'est tout moi, ça.
C'est tout moi.
C'est ma carapace humaniste.
Je suis un grand psychologue.
En reviendrez-vous.
Surtout pas une sage d'argent.
Non, mais bon, je faisais comme blague parce que avant de venir à l'émission, j'ai été me régaler sur Reddit et donc j'ai lu des commentaires à ce sujet. Alors les commentaires font un petit peu peur. Et donc sur ce site qui est quand même une très belle démonstration de démocratie et de nuance, eh bien on observe des mots comme mais qu'est-ce que ça peut être con ou alors de toute façon l'être humain m'afflige. Et je pense que le lien avec ce que disait Cyril tout à l'heure, c'est que derrière tout projet politique, eh bien se trouve une vision de l'homme. Et je pense que les gens qui vont se lancer dans ce système-là, ce sont des gens qui ont certaines conditions économiques, etc., on va en parler, mais surtout qui ont une croyance profonde que l'être humain est plutôt de confiance et plutôt bon.
Ben justement, dernière question pour cette première partie, qui fait partie de ces gamers? Ils ont quel âge? Ils ont quel niveau social, statut social?
Alors là, c'est la question un peu piège, parce que comme on le disait, on peut faire des stats sur une poignée de main pas facile, en tant qu'expert international du gamers, hein, merci pour j'ai rajouté ça sur mon CV. Ouais, j'ai donc été sur l'ensemble de l'internetosphère et j'ai traduit les sites allemands en français. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que on n'a pas de statistiques. En revanche, il y a quelque chose de très clair. Il faut évidemment une diversité de revenus. Il faut une diversité de précarité. Il faut qu'il y en ait qui soient assurés d'autres. Un peu comme dans les coopératives ou les mutuelles. Mais peut-être plus intéressant, c'est que l'expérimentation n'a pas été jusqu'à dépasser les plafonds, les murs qui sont la retraite, qui, donc vous l'avez entendu, maintenant était à 75 ans. Et deuxièmement, le fait d'avoir des enfants. Aucune expérimentation n'a été au-delà de cette pensée-là. Et après, les mécanismes, peut-être qu'on en parlera, mais ils ont été dessinés de telle sorte à pouvoir s'accommoder de toutes les situations de vie.
France Inter, Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Mikasa, Isukasa, et ton argent, et mon argent. Bienvenue cet après-midi chez ceux que les Allemands appellent les Gemeuk, ces communautés où on met l'argent en commun, tout l'argent. Alexandre Jost, fondateur de la Fabrique Spinoza, un observatoire qui étudie les liens sociaux et le bonheur, est avec nous pour en parler. Alexandre, déjà, est-ce que ça vous étonne que cette idée soit née en Allemagne?
Sans doute pas, parce que les Allemands sont... et sont des écureuils, comme les Français, mais encore un petit peu plus. Leur taux d'épargne est 18% alors qu'il est de 15% chez les Français. Donc on comprend qu'il y a une envie de trouver des mécanismes pour mettre son argent de côté ou en commun, en tout cas se prévenir contre des soucis. Et puis deuxièmement, ils ont un sens commun qui est plus développé que le nôtre. Alors je vais citer un chiffre très ancien, mais en même temps il me paraît intéressant. En 2011-2012, c'est Jean-Paul Delevoye, il était médiateur de la République à l'époque, il disait 72% des Français n'entrevoient pas de projet commun. Et donc, on peut supposer que le chiffre est pire aujourd'hui. Mmh. Et à l'inverse, en Allemagne, je discutais hier avec un fin observateur de la société qui disait que dès la crèche, on encourage les enfants à trouver des jeux communs. Si deux enfants jouent ensemble, alors on amène un troisième enfant pour l'inviter à contribuer à un jeu collectif. Et donc, vu sous cet angle un peu simpliste, la mise en commun ou le fait commun me paraît plus... adaptés et compatibles avec la société allemande que la société française.
En gros, nous, les petits Français, sont plus éduqués à la compétition et en Allemagne, plus à la coopération.
On pourrait dire ça en France à la compétition, et je reviens à cette idée de statut. Jacques Attali a encore en quatrième de couverture de ses livres le fait qu'il soit major de, je sais plus si c'est X ou l'ENA, mais il a été major de l'un ou l'autre. Est-ce qu'on a encore besoin de se référer à ça? Est-ce qu'on peut pas? C'est la France est le pays du monde dans lequel, ou je sais plus si du monde ou de l'OCDE, dans lequel on se juge le plus par son aspect vestimentaire. Donc cette compétition, elle est là, et une autre manière de le voir. Oui, je vois, vous voulez dire.
Non, pas du
Mathieu.
Tout, parce que je pensais aux diplômes aussi. C'est vrai qu'on se juge beaucoup par les diplômes en France, alors qu'au bout d'un moment, surtout quand on a fait une carrière, limite les diplômes, c'est bien accessoire. C'est pour démarrer la vie, c'est important. Mais en France, on a tendance à les ressortir tout le temps.
Oui. Lorsque la réforme de l'ENA a été mise en place, ce sont les élèves de l'ENA qui sont opposés à la disparition du classement. Parce qu'on a tout d'un coup une existence tangible dans la société. On est l'un des pays dans lequel on se réfère le plus pour son identité à sa carte de visite. Et donc, il me semble que l'une des composantes essentielles de la mise en commun, c'est d'arriver à être entre être humain. Et un exemple de ça, je fais un pas de côté, c'est lors de la COP26, je crois que c'est celle-là, organisée par les îles Fidji. Ils ont essayé une méthode qu'ils ont appelée les dialogues de Talanoa, si je me souviens bien, qui est une méthode où les différents ambassadeurs délégataires des pays commencent par partager de manière empathique et humaine les histoires de leur peuple avant de décider de négocier sur les contributions et les empreintes carbone tolérables. Et donc, par analogie, le Gemok, c'est peut-être une enceinte dans laquelle on se dit comment est-ce que entre être humain, par-delà nos revenus fonctions, on arrive à se connecter à nos besoins fondamentaux, mais en tant qu'espèce, en tant que membre vibrant et membre émotionnel.
C'est presque philosophique, hein.
Enfin, comme, moi, je trouve
pour,
que
pour se mettre dans un Gemok, il faut avoir réfléchi à ça.
Moi, je trouve que c'est une vision de l'être humain qui a une composante métaphysique. Qu'est-ce que je recherche dans la vie? Quel est le sens? Bon, c'est un peu mon dada, mais quel est le sens du bonheur?
Concrètement, alors comment ça se passe, un Gemok?
Quentin, il a envie de mettre en commun.
C'est okay. combien de personnes, combien de banques, combien de cartes de crédit, un conseiller bancaire? Comment ça marche? Parce que là, c'est assez utopique, c'est très beau. Mais vraiment, factuellement, comment ça marche?
Non, mais je sais que hors antenne, Quentin nous disait qu'il avait vraiment très envie de le faire, donc je comprends la petite détail. Premièrement, ça peut être réel ou virtuel. Donc, par une application, c'est possible. C'est-à-dire que tant que le compte commun n'a pas été créé dans les 6 premiers mois, les Gemok en général se créent via une sorte de tri-count un peu volé, comme le disait Mathieu tout à l'heure. Deuxième point, il y a une nécessité, et ça c'est vraiment essentiel, d'intelligence collective, pour revenir là-dessus, par lesquelles on décide combien on met. Et j'ai observé dans un atelier organisé en 2021 de formation en Allemagne, dans le squat dont parlait Mathieu, sur comment constituer son Gemok, que l'une des méthodes encouragées, c'est ce qu'ils appellent le tour d'enchères. Donc on va chacun tour à tour, Manon, Quentin, Mathieu et moi, nous allons faire un premier tour, on dit combien est-ce que je peux mettre facilement? Donc voilà, moi je vais mettre 1000 euros facilement. Manon va dire 2500, étant une femme donc statistiquement plus payée que les autres. Deuxième tour, combien est-ce que cela fait sens de mettre en fonction des projets que nous avons? Et troisième tour, combien est-ce que je rajoute enfin qui est difficile, mais c'est l'effort supplémentaire. Et tout ça est arbitré selon la qualité et la sincérité des projets qui sont mis sur la table à financer pour le collectif.
Mais Manon, ils ont quand même des règles assez strictes, non? Parce que sinon, personne ne le respecte.
Oui, effectivement. Donc, les règles qu'on observe, c'est au-delà d'une certaine somme, 50 ou 100 euros, on est obligé d'en référer au collectif.
Ah oui.
Moi, je pense que c'est un micro-apprentissage de la démocratie. C'est-à-dire que Tocqueville dit la démocratie s'apprend localement. Et peut-être que c'est ça. Peut-être qu'on
réapprend la démocratie à travers cette petite unité du Gemok. Il aurait pu, lui, se rendre au Wirfunzik Landsberger Strasse. Ça aurait été l'occasion de revoir Bertin, le serrer dans ses bras et se souvenir des beaux jours heureux en prenant de la MDMA. Hélas, la compta a mis son veto. Berlin, c'est trop loin.
Tu bois du lait.
Pardon,
Bertin, c'est du lait.
C'est vrai qu'il tourne au lait en plus.
Au chocolat.
C'est jamais drogue. Et il tourne au lait. Et même, tu sais, une soirée,
il était venu chez vous.
Il était venu avec sa brique de lait.
On sait pas ce qu'il y a dedans après.
Non, c'est vrai qu'on n'a pas vérifié ce qu'il y avait dedans.
Du lait de jument.
Oui, spécial. Heureusement, Quentin. Vous n'êtes pas allé à Berlin, mais vous avez su rebondir. Pour parler de ces communautés solidaires, vous avez essayé d'être contre-intuitif. Et vous êtes allé dans le 16e arrondissement.
Oui, vraiment. Pour une fois, ma première rencontre, c'est ce monsieur que je vois arriver de loin. Pantalon en velours vert, cheveux mi-longs coiffés en arrière, lunettes rouges et une moustache, mes amis. Digne du colonel Moutarde dans Cluedo. Bonjour.
Bonjour, cher ami.
Quel est votre prénom?
Je m'appelle Franck.
Vous avez une belle moustache, Franck.
Oui, on me le dit souvent.
Je l'ai vu arriver de loin.
Vous êtes très observateur.
Il est chirurgien, Franck. On s'essaie ensemble à ce fameux...
Le Gemok.
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 Gemok même.
Gemok.
Gemok.
Je vais arrêter là.
Et c'est surtout genre tu sais comment ça se dit en plus.
Il allait sur
alors que tu dis vraiment n'importe quoi.
Je me suis bien amusé. Je lui montre l'article du Courrier International. Il lève les yeux au ciel. Je lui explique des gens qui ne vivent pas ensemble, qui mettent leurs revenus sur un compte commun.
Et j'aimerais bien savoir ce qu'ils comptent faire de ce capital, puisque en fait c'est le but de leur association.
Vivre. D'accord. Décemment. Peut-être.
Mais vivre, ce n'est pas une réponse. Dites-moi ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont organiser des dîners collectifs? Est-ce qu'ils vont le donner aux pauvres?
Voilà, pour Franck, il faut qu'il y ait un objectif derrière, un projet, un retour sur investissement. Mais ce n'est pas faux, son raisonnement, parce que ça peut être aussi le but du GameOc, de faire des projets. J'arrête cette dame qui sort de la boulangerie.
Bonjour.
Quel est votre prénom?
Sandrine.
Est-ce qu'il est bon ce café à emporter?
Délicieux.
Sandrine est mère au foyer, elle découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Les GameOc.
GameOc.
GameOc. Ils ne partagent pas leur quotidien, mais tous leurs revenus. Ça me fait penser au kibbutz, en Israël.
C'est pourquoi?
Je sais pas, les kibbutz, c'était comme ça, c'est comme ça. Tout le monde, c'est la collectivité, tout le monde met au pot commun et tout le monde partage. Ça marcherait pas en France. Mais le français est assez perso, hein. Je pense que ça marcherait pas. Dans les pays nordiques, super, mais pas en France.
Alors, pas en France. Notre culture est-elle plus individualiste que celle des Allemands? Je rencontre ce monsieur, paquet de cigarettes en main, j'ai l'impression qu'il est en pause. Pourquoi le GameOc fonctionne-t-il outre-Rhin?
Je pense qu'en Allemagne, ils ont un peu plus de, on va dire, de sens civil. C'est question aussi d'éducation. Mais voyons comment le modèle marche, hein. Ça...
Je sais pas, là, il y a une Ferrari qui vient de passer. Lui, s'il est dans le GameOc, c'est pas mal.
Ah bah, il serait bien, ouais, mais est-ce qu'il a envie d'être dans le GameOc? C'est ça la question, hein. Si vous en avez un qui gagne 1000 et l'autre 100 000.
Vous avez raison, ça s'adresse qu'à une catégorie de salaire relativement proche, finalement.
Oui, voilà. Bah, je sais pas, vous avez quelqu'un qui gagne 5 000. Voilà, un autre qui en gagne 6 000. Ça reste dans des eaux à peu près égales, quoi.
Ouais, pour lui, il faut une variable de 20% entre les salaires d'un GameOc pour que ça fonctionne. Ma dernière rencontre, c'est Thomas, qui veut s'éclaircir la voie avant de passer sur France Inter.
Je suis prêt.
Vous avez quel âge, Thomas ?
53. Je dirige un cabinet de conseil en management.
Ok, ça marche bien ?
Du feu de Dieu.
Je garde dans un coin de ma tête une question sur le management, mais pour l'instant, on commence avec ça.
Les GameOc.
Pas mal.
Je ne sais pas ce que c'est que les GameOc.
Bonne prononciation, en revanche.
Merci. Ils ne partagent pas leur quotidien, mais tout leur revenu. Bienvenue dans le monde des GameOc. C'est pas idiot. Je vois énormément de modèles comme ça qui émergent dans cette société un peu angoissante, un peu anxiogène. Où en fait on va inventer des modèles de mise en commun, mais qui ne passent pas par un tiers de confiance institutionnel, pas par un État, pas par une collectivité territoriale. C'est juste nous, on a décidé d'eux entre nous, et sur effectivement des trucs comme le fric, comme le logement, comme les choses un peu de base comme ça.
Il me dit qu'il serait prêt à faire partie d'une telle communauté, mais pas avec des inconnus et pas avec des trop proches non plus.
Ah bah oui, parce qu'à ce moment-là il y a toujours une notion de règlement de compte ancien. On voit bien des fratries qui s'entendent bien. Le jour où les parents meurent, ils s'étripent sur l'héritage pour des questions de « tu m'as piqué deux billes quand on avait 5 ans ». Donc, je ne sais pas. Je pense qu'il faut que la raison d'être du GameOc soit hyper claire et hyper partagée entre toutes les parties prenantes, quitte à l'écrire.
On fait un contrat, quoi.
Une convention.
On joue sur les mots. Qu'est-ce que ça dit de notre époque ?
Ça dit que les gens sont inquiets, ça dit que les gens cherchent une communauté. Ils cherchent un sentiment d'appartenance à quelque chose et que les institutions ont perdu en crédibilité. On voit qu'elles... Enfin, mais à leur corps défendant, le monde est, on le sait, volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc, on voit que les institutions sont pas très douées pour anticiper les choses, prendre des bonnes décisions. Donc, on dit, je vais plutôt me rabattre sur mon cercle de confiance.
Avant de le laisser filer, une petite question sur le management de Cyril Lacarrière. Mon rédacteur en chef et manager totalitaire. Ouais, il se revendique comme ça. Vous avez une phrase pour lui ?
Le problème des totalitarismes, c'est que ça finit généralement pas bien pour le dictateur.
Ah, voilà. Difficile, ouais, Cyril.
Il n'est pas d'accord en régie.
Il peut hausser les sourcils. Difficile à prononcer ce GameOc. Mais très vite, vous voyez les limites, les craintes, les doutes d'une mutualisation des revenus. Avec ce truc quand même bien français, il y en a toujours un qui se fait au final un peu avoir.
Alexandre Joss, est-ce que vous êtes d'accord avec Thomas qui dit qu'il y a une volonté dans le GameOc de s'affranchir d'un tiers institutionnel, peut-être de l'État, des aides aussi? C'est important, cette notion-là, dans le GameOc?
Oui, je pense que c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a effectivement des courants de désinstitutionnalisation de la solidarité. Dans la mesure où il y a un sentiment anti-impôt, où il y a une perte de confiance dans l'État, ben, les gens cherchent d'autres échelles, et finalement dans les travaux de la Farid Spinza, on s'aperçoit que le fait de reparler à des gens, de refaire des rencontres, de recréer des cercles, en fait, ça fait émerger naturellement une solidarité, alors que celle nationale, elle est désincarnée. Et l'altruisme, je suis persuadé, puisque la solidarité est une forme d'altruisme, l'altruisme a besoin d'avoir une incarnation physique, d'avoir une personne en face avec laquelle on a dialogué, échangé, peut-être conseillé sur les forums. On voit qu'il y a beaucoup d'engueulades, de disputes dans les Guémocs. Hein. C'est pas facile. C'est en ça que le Guémoc est un couple élargi.
Oui, mais parce que Thomas en parlait dans le micro-trottoir, il y a aussi cette notion de communauté, communautaire. Les Guémocs, c'est aussi avec des personnes qu'on a choisies.
Oui, oui,
soit le regard vers l'autre, bon, c'est aussi avec notre cercle.
Oui, je suis d'accord, mais c'est en fait les sociologues, ils parlent de liens faibles. Le lien faible, c'est les personnes qu'on rencontre occasionnellement. Et je pense que le Guémoc, il part de ça, il bâtit un petit peu plus jusqu'au moment où on est prêt à faire un saut de confiance. À mon avis, c'est ça l'échelle qui se construit.
En un mot, Alexandre, l'idée d'avoir une variable de 20% sur les différents salaires, non mais c'est pas bête, parce qu'il y en a, s'il y en a un qui gagne 1000 et l'autre 100 000, ça ne peut pas marcher. Faut qu'on ait des salaires à peu près
équivalents.
Je trouve que cette idée, elle est effectivement smart, parce que quand on demande aux Français s'ils se considèrent comme riches, en général, ils répondent que oui, à partir de 30%, 20-30% de plus.
Donc, ce qui veut dire que le salaire médian.
Non, que soi-même.
Ah, que soi-même.
Oui, oui, bah,
je serais riche si je gagnais 30% de plus.
Un jour, j'ai demandé à un monsieur qui avait plus de 50 millions d'euros de fortune s'il considérait riche, et il a dit non, parce que je peux pas vivre des intérêts de mon capital. Donc, chacun.
C'était Mathieu Noël.
Donc arriver.
Faites attention, Manon. Partir avec un point de pénalité au quiz tout à l'heure.
Peut-être un mini éclairage là-dessus, c'est qu'en France, on parle l'effet tunnel. Ouais. Et l'effet tunnel, c'est le fait que lorsque on attend de coincer dans un embouteillage, que ça avance, si la file d'à côté se met à avancer dans les pays anglo-saxons, on se dit génial, donc ça va être mon tour. En France, on se dit oh le salaud à côté,
vite dans la file à côté.
Voilà, j'essaie de changer de file, mais c'est dégueulasse.
On est horrible.
Et donc finalement, le Guémoc pourrait marcher en France avec des différences de salaire qui sont sans doute moindres que dans d'autres pays.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Guémoc, notre mot du jour est si piégeux que Manon Mariani a dû réécrire toute sa chronique ce matin. Elle avait fait le portrait d'Ingvar Kamprad, le patron d'IKEA, le moment où Cyril a dû lui annoncer que Guémoc n'était pas un lit-coffre de la gamme Malmö. A été douloureux, mais certainement pas aussi douloureux que le Zoom Zoom Test. À la découverte aujourd'hui des subtilités du monde bancaire et des règles financières qui poussent peut-être certains à des solutions disruptives comme nos amis Guémoc. Et à tout fraudeur, tout honneur, commençons ce quiz avec Quentin et sa phobie administrative aiguë, du moins c'est sa ligne de défense quand l'URSSAF le rattrape, à chaque fin de mois donc. Question pratique.
Non, c'est pas, je règle au trimestre.
Très bien, au trimestre. Question pratique avec une mise en situation. D'après vous, pourquoi Quentin, qui vous le savez, ne vit pas que de son salaire Radio France, mais de 1001 petits business parallèles, s'est-il dernièrement fait taper sur les doigts par l'administration fiscale? Parce qu'il avait payé le SMIC des livreurs de sa filiale Les Déménageurs Normands en cash, or c'est interdit? Parce qu'il avait accepté les 10 000 euros en cash de l'acheteur russe de sa 205 Roland-Garros, et c'est interdit? Ou parce qu'il avait refusé une liasse de vin en paiement du dernier lot des tasses Lucy Galou, parce que les billets sentaient l'urine de chat, or c'est interdit de refuser?
Quoi?
J'ai rien compris. Bon, c'est
l'urine de chat. Vous voulez une précision?
Oui.
Moi non plus.
Alors, A et C, moi je dirais.
A et C, c'est une bonne idée.
C, j'ai juste.
Oh oui, Manon, vous n'avez rien compris. Et c'est quand vous ne comprenez rien que vous donnez la bonne réponse. Je vous explique.
N'abusez pas.
Je vous explique, Manon. Je vous explique. Vous pouvez faire confiance à Quentin. Dès qu'il s'agit d'espèces, il est au point sur la législation. Car oui, on peut payer un salaire en cash s'il est inférieur à 1500 euros. Et on peut accepter jusqu'à 15 000 euros en espèces entre particuliers, à la condition d'en conserver une trace écrite. Effectivement. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est refuser un paiement en cash sous prétexte que les billets sentent mauvais. Dans ces moments-là, il faut serrer les dents et se souvenir que l'argent n'a pas d'odeur. C'est ce que j'ai fait sur Europe 1 pendant 14 ans. Ouais. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver, vous aussi. La seule chose que vous pouvez refuser, c'est des billets déchirés. Mais attention, top. Direction la communauté des Catogans de Gaïa, aux portes de Paris, dans un écrin de verdure. Gislain Fontana, notre réalisateur égéripier Birkenstock, coule des jours heureux auprès des siens. La communauté a été la première à ouvrir un Guémoc en France, c'était en 2014, auprès d'une succursale du Crédit Agricole. Un compte, hélas, rapidement fermé parce que l'agence n'a pas accepté d'échanger les pierres d'énergie de Gislain en euros. Girol, la compagne de Gislain, avait craqué et mangé sa carte bleue en amidon de maïs à son 9e jour de jeûne.
Non, mais stop.
Ou parce que la banque a découvert que l'essentiel des fonds venait de la secte tantrique du père de Gislain.
A et C.
C'est fou parce que A et C, c'est vraiment les mauvaises réponses.
Ah, j'ai juste dit B, du coup.
Oh oui, Manon, c'est magnifique. Oui, bonne réponse B. Sacré Girol.
Elle a mangé.
Sacré Crédit Agricole.
Elle a mangé sa carte.
Écoutez bien ça. Mais non, mais ça, c'est l'exemple. Oui, en 2014, certainement grisé par l'arrivée d'un nouveau stratège marketing fraîchement diplômé de la Polytechnic School of Greenwashing, la Banque Crédit Agricole a tenté la carte bancaire comestible. La CB en amidon de maïs, mais voilà, elle était un peu trop friable, du genre à faire du pop-corn dans le TPE. Encore une idée qui n'a pas rencontré son public, n'est-ce pas Quentin ? Emoji clin d'œil, emoji tasse, emoji cigale. Ni une ni deux, résilients comme jamais et s'asseyant allègrement sur leurs convictions déconsommatrices, les Katogans de Gaïa décident, lors du Conseil des Sarouels du Savoir, de s'adresser à la Deutsche Bank pour financer les travaux de rénovation de leur bergerie. D'après vous, pour quelle raison s'adresse-t-il à la Deutsche Bank ? Parce que la Deutsche Bank est la première banque au monde à offrir un best-of dédicacé de Pierre-Paul Jacques pour toute ouverture de compte.
Pardon ?
À accepter les meules de fromage en garantie. Ou à accepter le paiement des agios en nature.
B,
nous dit Alexandre.
C'est.
Mais vous, vous dites n'importe quoi. Écoutez plutôt Alexandre, c'est le spécialiste mondial. Bonne réponse. Exactement.
Tout le monde y serait.
C'était la réponse B. Point. Point très important, parce que autant j'aime l'humour, mais on peut pas dire n'importe quoi. Aucune banque n'a jamais offert d'album de Pierre-Paul Jacques.
Ah bon. Peut-être.
Nulle part, jamais, et ça n'arrivera pas. Non, effectivement, si Ghislain a choisi la Deutsche Bank, c'est qu'en 2020, un fabricant de fromage italien a obtenu un emprunt de 27 millions d'euros en contrepartie de 125 000 meules de parmesan et de grana padano, laissé donc en garantie pour construire une nouvelle cave de fermentation. Voilà une banque proche de ses clients. Et justement, pour conclure ce quiz sur les bizarreries bancaires et monétaires, restons en Allemagne, mais remontons le temps. Nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale. Helmut La Carrière, le grand-oncle de Cyril, rouspète que pour Die Deutsche Mark, t'as plus rien. Il a raison. Car dans les années 20 en Allemagne, c'est la catastrophe. Le pays est en proie à une hyperinflation galopante, à tel point que pour enrayer le phénomène, l'État va décider de quoi ? De fondre les douilles d'obus pour fabriquer des pièces ? D'annexer la Pologne parce qu'ils ont des jolis billets ? Ou de laisser tout le monde imprimer ses propres bifetons ?
Ah.
Répétez ce que vous venez de dire, Quentin.
C'est imprimer ses propres billets.
Imaginez un pays qui laisserait les gens imprimer leurs propres billets.
Oui, bon, c'est ça.
Imaginez ça, Quentin. C'est une bonne réponse de Quentin, lui, c'est complètement fou. Oui, il faut se souvenir. Je suis très excité. Effectivement, c'est le thème qui m'excite. Il faut se souvenir de ce qu'a été l'hyperinflation des années 20 en Allemagne, un jour qu'il n'avait pas pu acheter au marché, qu'il n'avait pu acheter au marché que deux rutabaga pour ses 16 enfants. Helmut La Carrière avait lancé désespéré.
On va finir par distribuer des petits bonbons au cyanure à tout le monde et il aura moins de bruit, croyez-moi.
Une époque sombre, très sombre. Les fridolins étaient à sec, comme Manon le 25 de chaque mois. Alors qu'ont-ils fait ? Eh bien, ils ont commencé à imprimer leur propre monnaie. Non officielle, évidemment, mais ça a marché. Ces billets étaient imprimés sur du papier. On utilisait aussi divers supports, comme la céramique, le bois, le tissu, n'importe quoi. Mais les gens en reconnaissaient la valeur. C'est une victoire de Manon Mariani.
Ouais.
Mais je ne sais pas si c'est une victoire, parce que vous partiez avec un point de pénalité.
Mais ça a été compté.
Ça a été compté.
On est sûr de ça ?
Oui, oui. Même Cyril m'a enlevé un point. Donc
c'est votre pote.
C'est mon pote. C'est mon rédacteur en chef.
Ouais.
On lui donne le respect.
Il est des nôtres, il a mis son salaire comme les autres. Zoom aujourd'hui sur les GameUk, ces communautés autonomes où chacun, chaque membre place son argent en commun avec les autres. Et pour nous éclairer sur ce modèle qui nous vient d'Allemagne, on est toujours avec Alexandre Jost, fondateur de la fabrique Spinoza, un observatoire qui étudie les liens sociaux et le bonheur. Alexandre, tout repose en fait quand même sur la confiance, si je comprends bien. Si je gagne plus que les autres, et il ne faut pas que je tombe sur des profiteurs. Alors, ça, c'est très français comme question, mais ouais. Je ne peux pas m'empêcher de la poser.
Très Noël.
C'est vrai que ce n'est pas facile de pas renforcer les stéréotypes avec ce concept-là. Et pour autant, je pense que c'est une question essentielle. Il y a une question qui est posée souvent dans les sondages et puis depuis de nombreuses années, c'est la question de est-ce que vis-à-vis d'un inconnu, petit A, moi aussi je fais mon petit quiz, alors vous pouvez répondre, en France, on n'est jamais trop prudent, petit B, on peut lui faire confiance.
On n'est jamais trop prudent.
Exactement, et la France est championne là-dessus, elle répond
Je m'applaudis.
Et cette question, elle est posée dans différents pays. La France répondait avec 62% de méfiance en 2019. Voilà. On est passé à 79% aujourd'hui, en 2024.
Ah ouais.
Donc ce sont des chiffres du baromètre de la fraternité. Mais après, ça c'est vis-à-vis d'un inconnu. Malgré tout, c'est quand même révélateur du fait que la confiance, elle se construit progressivement.
Mais qu'est-ce qui explique que culturellement, les Allemands soient plus portés vers cette solution-là ? Alors, le concept GameUk est né chez eux, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que l'Allemand va être plus porté à mettre en commun comme ça son salaire avec d'autres ?
Moi, je pense qu'il y a quand même une relation à l'impôt qui est à creuser. Et la défiance, la défiance vis-à-vis de l'impôt en France, mais également l'envie ou la très faible envie d'y contribuer, n'est pas de nature à faire chercher aux Français encore un autre moyen de mettre de l'argent en commun. Parce qu'on pourrait faire une autre analyse en disant, finalement, le rôle premier ou la fonction première de l'État, c'est quand même de lever l'impôt. Et donc, dès l'instant où des individus se mettent à faire ça à leur échelle en ayant leur propre mise en commun d'argent, c'est la fin de l'État. Mmh. Donc, la France, l'État, est malgré tout assez fort dans son histoire, assez prégnant, occupe une grande partie de la psyché. Donc, on a moins cette pensée-là, alors qu'en Allemagne, dans un État plus fédéraliste, elle semble plus naturellement...
C'est le fédéralisme. On a fait une émission sur le fédéralisme. Voilà où on va si on opte pour le fédéralisme.
C'est pas dû aussi au fait qu'en France, l'argent, c'est un sujet tabou.
Alors, moi, je pense que en France, on a la chance d'avoir une multitude de sujets tabous.
Donc, l'argent n'en fait pas partie.
Non, mais bien sûr, l'argent en fait partie. C'est en ça que je le redis, le GameOc est un couple élargi. Mais au-delà de ça, c'est Destin Commun qui fait une analyse en disant qu'on a une polarisation non pas idéologique en France, mais une polarisation affective. En d'autres termes, 31% des Français sont inquiets de parler avec quelqu'un qui a un avis contradictoire sur un sujet de fond. Donc, on n'est pas bien équipé émotionnellement en France pour échanger avec l'autre. Et l'argent, c'est le sujet principal, effectivement, de friction, parce qu'il révèle derrière les degrés de pouvoir, et les ascendants, les assujettissements.
Quentin. Mettre en commun des ressources pour financer et s'assurer des réserves, des retraites, du chômage, des frais de santé, de l'éducation, de la sécurité, c'est la France. Le GameOc géant, c'est la France.
Mais évidemment, oui et non, parce que la question que vous posiez, c'était comme François, le monsieur
Thomas
en cabinet de conseil. En fait, il n'y a pas d'objet social dans un GameOc, ça n'est pas une association. Donc l'argent, il est mis en commun simplement pour son usage de la vie quotidienne. Malgré tout, je comprends bien la transition entre le GameOc, si on a plein, qu'est-ce que ça devient? Et cette question, elle est marrante. Donc j'ai fait les recherches dans le cadre de mon doctorat international
sur le GameOc.
Et on ne voit qu'aucun GameOc n'a dépassé les 50 à 80 personnes. Et encore, dans ces GameOc-là, ce sont une dizaine d'individus, le reste étant plutôt des observateurs. Malgré tout, on peut se dire, mais c'est quoi le nombre optimal pour une vraie confiance? C'est 12. Parce que 12 fois 12, 144. Et 12 personnes, je peux à la fois connaître les gens et les interactions entre les gens. Et du coup, on arrive à quelque chose de très inspirant, c'est « Et si on réinventait la solidarité nationale par des agrégats de solidarité ?» Collective locale.
On se divise par petites unités de 12.
Exactement.
Et la France ira mieux. Vous écoutez France Inter, où je soumettrai bientôt en AG l'idée qu'on mette tous nos salaires en commun. Si Nagui accepte, alors moi aussi j'accepterai.
Chiche.
J'aurais peut-être pas dû formuler ça si frontalement. Oui. Manon, maintenant, on va découvrir qui est l'autre personne à suivre.
Je vous présente Jean-Marc Potvin. Il a 59 ans, il est français, il est ingénieur et entrepreneur. Il commence sa carrière en tant que directeur technique de Quelcoût, un comparateur de prix en ligne. La start-up se fait racheter par Yahoo. Il devient vice-président de Yahoo Europe au début des années 2000. Il baigne donc dans ce monde de la tech où Internet est en train de devenir essentiel, où tout est en train de se construire. Jusqu'au moment où une expérience va venir chambouler sa vie. Il se lance le défi de faire l'ascension du Kilimandjaro, sauf que dans la montée, son corps le lâche et il fait un œdème pulmonaire. Du coup, il frôle la mort. Et après ça, Jean-Marc Potvin décide de changer radicalement de vie. Il démissionne, part faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et se met en tête d'aider les autres. C'est pour ça qu'en 2014, il fonde l'association Entourage, qui a pour mission de lutter contre la précarité et l'exclusion sociale en recréant du lien entre les personnes sans-abri et les riverains. Entourage propose une application qui permet aux citoyens de créer ou de rejoindre des événements solidaires à proximité pour favoriser les rencontres et les échanges entre voisins avec des personnes SDF. Ces initiatives incluent par exemple des soirées, des jeux, des tournois, des petits déjeuners, etc. L'association a également développé le programme Entourage Pro, un réseau professionnel, cette fois-ci destiné aux personnes en situation d'exclusion pour faciliter leur accès à l'emploi. Les participants peuvent ainsi se créer un profil, bénéficier d'outils de mise en ligne et surtout d'accéder à des ressources pour les accompagner dans leur parcours. Entourage a permis à plus de 15 000 personnes de retrouver un réseau de soutien, contribuant ainsi à la lutte contre l'isolement des personnes sans-abri. L'application compte à ce jour près de 170 000 utilisateurs. Son ambition aujourd'hui, élargir encore plus son réseau, notamment aux 2 millions de Français qui sont encore en situation de précarité, comme les familles monoparentales, les jeunes qui sortent de l'ASE ou les personnes handicapées.
Merci Manon. Vous voyez Alexandre, on n'est pas tous des enfures en France. Il y en a qui ont des belles idées. Qu'est-ce qui se rapprocherait le plus chez nous du Gamuk?
Je le disais tout à l'heure, je pense que c'est quand même le couple. Et pourquoi est-ce que c'est une blague et c'en est pas une? Parce que je me réfère à un article qui était intéressant, qui est paru dans Le Monde, et qui parlait des dangers du compte joint, du compte commun.
Ah, et parlez-moi de ça.
Le danger, c'est premièrement le fait qu'il y en ait un des deux qui parte en sucette, pour utiliser une expression de sociologue. Et deuxièmement, c'est le fait qu'il y ait un assujettissement de pouvoir de celui qui contribue plus que l'autre. Parce que, et c'est particulièrement le cas dans le cadre, pour la femme. Et donc, la question de la disparition des mariages sous régime de compte, comment appelle-t-on ça,
De communauté universelle,
va dans le sens de dire on a du mal à trouver le bon échelon de solidarité. Et il me semble que ça correspond avec l'idée que petit à petit, les gens s'éloignent de leur famille et se rapprochent de leurs amis. Et donc, on voit qu'on est en train de se chercher en tant que société à trouver la bonne échelle à laquelle faire commun. Et moi, il y a une phrase que j'avais envie de partager d'un élan humaniste, c'est de dire peut-être que le Gamuk est en train de nous dire que tout d'un coup, la solidarité a un visage. Et c'est ça qui me semble de nature à faire sortir le meilleur de ce que nous avons à l'intérieur de nos petits cœurs.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Chaque matin, il se délecte de découvrir dans la presse les fruits de son vicieux travail de sape. 3 semaines maintenant qu'il balance à Mediapart tout ce qu'il sait sur l'affaire Betarame. On savait son inimitié réciproque pour François Bayrou. On ne savait pas que ça irait si loin. Et pourtant, celui qui, dans ses échanges avec Mediapart, se fait appeler Pierre Snowden, semble décider à ne rien lâcher. S'il démissionne pas, je remets mon sweat au charme français. Aurait même lancé forcené Pierre Courade, visiblement prêt au pire. Donc, chaque après-midi, Pierre, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en 1 minute chrono. Aujourd'hui, le Gamuk.
Je vais faire appel à mes 6 années d'allemand pas dispensées chez les frères-maristes pour prononcer Gamuk, la contraction de Gemeinsame Ökonomie. Tout comme le grand-père de Cyril, c'est donc un concept venu d'Allemagne. Le principe des personnes qui ne sont pas de la même famille mettent tout leur argent en commun. L'avantage, c'est qu'on n'est même pas obligé de vivre ensemble. L'inconvénient, c'est que toutes nos sources de revenus ne nous appartiennent plus. Quentin appelle ça l'URSSAF. Faire pot commun en France de manière volontaire, ce n'est pas vraiment notre truc. Comme nous l'a expliqué notre invité Alexandre Jost, fondateur de la fabrique Spinoza, un observatoire qui étudie les liens sociaux. Pour lui, la France est un pays très vertical où l'on se regarde à travers nos statuts, c'est moins la culture en Allemagne, où les rapports entre citoyens sont plus horizontaux. Les membres des Gamuk ont décidé de se faire confiance, c'est la base. La diversité des revenus permet de subvenir à tous les accidents de la vie, sauf, et c'est l'écueil des Gamuk, pour la retraite et l'arrivée d'un enfant, c'est ballot. Reste que les Gamuk, par leur gestion, par consentement, sont des ateliers de la démocratie. Deutsche Qualität.
Deutsche Qualität, et on est pile sur 1 minute.
Oh, 1 minute 00. C'est meilleur, hein.
C'est, oui, voilà, vraiment. Tout le monde vous dit bravo. Karim Duval, quelle chance vous avez eu de tomber sur ce sujet Gamuk, sujet de niche classique dans Zoom Zoom Zen.
Oui, mais là quand même on est sur une niche de Chihuahua roux d'Estonie cachée dans une niche de lévrier nain planqué au fond d'une forêt des Vosges entre une cabane abandonnée et la jeunesse de Cyril Lacarrière. Aux auditeurs qui nous rejoignent, non, un Gamuk n'est pas un meuble Ikea. Ah oui. Non, ce n'est pas une chaîne de fast-food turc, un genre kebab Gamuk. Hein, je rappelle la définition de Gamuk parce que je veux contribuer à faire éclore ce mot dans la sphère publique. Gamuk, ou la mise en commun de tous ses revenus financiers avec des personnes qui n'ont pas de lien familial afin de s'assurer une stabilité financière et de créer du lien. Vraiment, ce concept mérite d'être mis en avant. Quand tu tapes Gamuk dans Google, t'as moins de résultats qu'avec Quant ou Ecosia. En même temps, partager ses revenus, ça sent le truc d'écolo un peu babos, hein, du genre qui porte des Birkenstock sans complexe, mais avec des chaussettes. Je rappelle que les Gamuk sont nés en Allemagne. On est donc dans la co-confiance, la co-coopération. On ne fait pas caca, on co-crée du compost. On est sur des personnages qui, quand ils te parlent, on dirait qu'ils essayent de créer une ambiance d'interlude acoustique à un concert de Mathieu Chédid, tu sais, quand le public s'assoit par terre. Alors, tous ensemble, on va oublier le jeu tu, il, elle. Nous voudrions que nous soyons dans le nous. Oui, dans le nounouement. Noyons-nous dans le nous pour faire un jeu qui soit un jeu et non pas un jeu qui nous tue. À partir de maintenant, on ne se moque pas, on se gamoque.
On va créer un grand, grand compte commun et on va tous mettre tout notre argent dedans, tous, car l'homme est un nous pour l'homme.
Je tiens à préciser que je surkiffe Mathieu Chédide et que malgré cette caricature ultra cliché des gens qui créent des gameucks, ce sont eux les vrais courageux, ils en ont dans le slip, fut-il en toile de jute. Moi, j'en serais incapable. Partager tout mon salaire, le fruit de mes efforts, ma sueur. Pour ça, je te prête mon t-shirt de sport, si tu veux. Ou partager les brosses à dents, à la rigueur, si ça reste dans la famille. Voilà, mi casa est tout casa, mi reste de gigot est tout reste de gigot. Mais le salaire. Après, si on regarde bien, on est déjà dans une logique de gameuck. Les banques. Une banque, c'est un gameuck créé par un gars pété de thunes qui dit aux autres, si vous mettez tous vos petits salaires à chaud, là, au chaud, là, à côté de mes milliards, moi, je vous prête des sous pour acheter une maison. Et sentez-vous à l'aise, hein. Tout casa est mi casa. C'est juste qu'une banque, c'est pas l'idéal pour créer du lien. J'ai jamais vu quelqu'un dire oh, t'es au CIC, moi aussi. Hein. Faut vraiment qu'on se fasse un apéro géant avec tous les clients CIC du Poitou. Chacun ramène un truc. Hein. Moi j'ai un djembé. Ouais, déjà, la banque du monde qui bouge, man. Le gameuc permet de créer du lien parce que c'est petit. Or, comme vous l'avez dit, la taille optimale du groupe humain, c'est 150 personnes maximum. Hein, moi, je l'ai lu dans Sapiens de Yuval Noah Harari. Hein, il le dit page 12, donc je l'ai lu. Et comme vous, Alexandre, je pense que le bonheur est dans les petites structures locales, loin des banques, des réseaux sociaux. Hein, le bonheur est dans l'entraide, dans le partage, le potager, les poules, les œufs frais qu'on va ramasser. Et le gameuck est un œuf. T'aimes à la transition. Oui, Zoom Zoom Zen a hissé le gameuck de l'état de poussière sur Ecosia au statut d'œuf que nous avons pondu collectivement. Effectivement. En début d'émission, Cyril Lacarrière a fait poindre ce mot tel une coquille à l'oreille d'un cul de poule. Puis 50 minutes durant, vous l'avez aidé à sortir en poussant tous ensemble un Et cette chronique de fin d'émission, bah, c'est un peu le cloaque du gagninacé qui se referme. Le gameuck n'a plus qu'à éclore. Il ne tient qu'à vous, chers auditeurs, d'en créer un. Quant à moi, c'est décidé pour la Saint-Valentin. Je daigne envisager un début de projet d'embryon de compte joint.
Oh, mais quelle audace! Karim Duval, merci. Nul doute que vous pourrez alimenter ce compte joint grâce à toutes ces dates de tournée qui arrivent, notamment à Toulouse le 26 février, Saint-Étienne le 5 mars, ou encore Lyon en juin. Mais Lyon, c'est chez vous.
Absolument.
Vous jouez à domicile.
On n'est pas complet, mais voilà.
Mais ça va venir.
Même on le dit, voilà.
Et en plus, il y a la famille qui peut venir.
Famille,
merci Alexandre Joss de nous avoir initié aux joies du gameuck. Je rappelle que vous êtes le spécialiste mondial du gameuck. Désormais, vous serez invité dans toutes les émissions pour en parler dans les 10 prochaines années. Donc,
Pour lancer un podcast d'ailleurs.
Vous avez bien raison, il faut capitaliser. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la Fabrique Spinoza. C'est un observatoire qui étudie les liens sociaux et le bonheur. Zoom Zoom Zen.